www.radio-g.fr.
Yeah, okay, let's go.
Bonjour à toutes et à tous pour ce premier opus de Entre les pages de la saison 2021-2022 sur Radio G. Premier épisode, mais troisième saison, mais 56e numéro de l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Désolé, un petit blanc, mais ça arrive comme ça, qui, avec le sentiment de ne jamais avoir terminé l'exploration de ce paysage pourtant bien restreint, 0,64% du territoire national, Terre Adélie comprise, comme le précise avec pertinence Wikipédia. Beaucoup de monde dans le studio avec moi aujourd'hui pour une émission dédiée à la maison Julien Gras qui a son festival Les Préférences. Autour de la table, Nadine Rocher, qui est venue un peu observer, voir comment se déroule l'émission. Autour de la table aussi, Simon Lauriti, qui est en pleine lecture d'un programme et qui peut nous dire bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Ruben, qui est le directeur de la maison Julien Gras. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Après de si nombreux mois de home studio, cette nouvelle saison démarre en direct et ça fait du bien, même si la fébrilité est là. À nouveau, j'essaierai de vous faire découvrir la multiplicité des paysages du monde des livres en Anjou. Tout comme je donne un coup de projecteur aujourd'hui sur le festival Les Préférences, j'irai aussi rendre visite aux autres manifestations. Je pense au festival Imaginaire, à l'opération Richer 49, au festival Angers BD. Une nouvelle voix viendra nous rejoindre de temps en temps, Sébastien, l'animateur de l'émission La Case de Seb, pour parler de l'univers de la BD en Anjou. Et puis, bien évidemment, je suivrai l'actualité du livre. Je me réjouis de recevoir bientôt Thierry Froger pour son nouveau roman « Et pourtant, ils existent ». Je suis curieux de rencontrer Patrice Véry pour parler de son énorme roman de science-fiction au titre improbable « Ce qui grignotait le fond de l'univers ». Je suis impatient de rencontrer les téméraires créateurs de la maison d'édition LMNMS « Les Minims » et son anthologie de poésie « Désirez-moi ». Tout un programme. Voilà de quoi convaincre tous ceux qui doutaient qu'il y ait encore des découvertes à faire en ces belles terres d'Anjou. Mais passons à l'invité du jour. À nouveau, bonjour Emmanuel Ruben. Si la maison Julien Gras, la maison que vous dirigez, fait l'actualité, c'est que nous sommes à quelques jours du démarrage du festival Les Préférences, deuxième du nom. Alors dites-moi Emmanuel, à une semaine du démarrage du festival, un peu fébrile ?
Enfin oui, c'est un petit peu d'excitation parce qu'on a hâte que ça commence. C'est vrai qu'on se prépare toute l'année, voire parfois même 2 ans en avance, hein, parce que j'ai commencé la programmation de ce festival en plein premier confinement en mars 2020. Donc voilà, j'ai hâte que ça démarre enfin.
Enfin oui. mais avant de parler du festival, je pense, enfin en tout cas il me semble important de rappeler un peu ce qu'est la maison Julien Gras, et est-ce que vous pouvez la présenter en quelques mots ?
La maison Julien Gras, c'est la maison où est né, où a grandi, où a passé les dernières années de sa vie Julien Gras, qui est située à Saint-Florent-le-Vieil, aujourd'hui commune de Mouches-sur-Loire. Et c'est une association, loi 1901, aujourd'hui, qui veille à respecter le testament de Julien Gras, c'est-à-dire que Julien Gras voulait en faire un lieu de résidence pour des écrivains. Et donc aujourd'hui, depuis maintenant, ça fait, l'association existe depuis 2012. Elle reçoit des auteurs et des autrices depuis 2013. Et alors, je ne saurais pas vous dire combien on en a reçu depuis le début, mais pas mal.
Hein. Oui.
On est aujourd'hui à plus, on reçoit plus d'une dizaine hein, d'auteurs par an. Et cette depuis on organise le festival Les Préférences maintenant depuis 2019. Avant, la Maison Julien Gracq soutenait en fait la commune hein, de Saint-Florent pour organiser les rencontres Gracq. Voilà. Et les préférences ont pris la suite des rencontres Gracq, mais la Maison Julien Gracq organise énormément de choses tout au long de l'année. On organise des expositions d'art contemporain. En ce moment, on a une très belle exposition de Thibaut Cuisset qui a commencé le 2 septembre et qui se terminera le 13 novembre. On organise des événements littéraires tout au long de l'année.
Bah, moi, j'ai pu en être témoin puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer les auteurs qui étaient invités au printemps, les trois auteurs,
tout
c'est
fait,
ça
oui,
trois
Martin auteurs, de la Soubière, Jean d'Amérique et Aliénor Glourovin.
Donc j'ai vu ce qui m'a d'ailleurs, quand j'ai vu qu'il y avait trois auteurs en résidence d'un seul coup, ce qui me semblait beaucoup, et que ça continuait, enfin ça ne s'arrêtait pas. Vous avez déjà répondu à la question combien. Comment on fait pour être en résidence à la Maison Julien Gracq? C'est quoi la procédure?
Pour être en résidence à la Maison Julien Gracq, il faut candidater. Il y a un dossier de candidature. Les candidatures s'ouvrent en principe au mois de septembre ou d'octobre. Donc là, on va ouvrir les candidatures au mois de septembre ou d'octobre 2021 pour l'année N plus 2, puisque ce sera pour l'année 2023. Donc on s'y prend beaucoup de temps à l'avance. Les auteurs ont du mois de septembre-octobre jusqu'au mois de mars pour candidater. Et on se réunit deux fois. On a un comité littéraire, artistique et scientifique, le CLAS, qui est composé de 20 membres et qui se réunit deux fois en mars et en mai pour sélectionner les lauréats. Donc en mars et en mai, en mai 2022, on aura sélectionné les lauréats de l'année 2023.
Et pour candidater, il faut réunir quelles conditions?
Il faut avoir publié deux livres à compte d'éditeur. Il faut présenter un projet qui fasse sens avec le projet de la Maison Julien Gracq, donc qui s'inscrit un petit peu, on va dire, dans l'esprit qui est celui de la Maison Julien Gracq, même si ça reste assez vaste. Il faut une lettre de motivation et il faut envoyer deux livres, donc il faut choisir deux livres de sa production en deux exemplaires pour les membres du jury, puisque chaque dossier va être examiné par deux membres du jury.
Et alors, il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas assez de candidatures, soit il y a trop de candidatures. C'est quelle version pour la Maison Julien Gracq?
Vous imaginez bien que c'est trop de candidatures. Non, en fait, pour l'année là, 2022, puisqu'en fait les candidatures nous sont parvenues entre 2020 et 2021, qui a été une année comme pour tout le monde un peu particulière. Et c'est vrai que malheureusement on a reçu que 37 candidatures, contrairement à 73 qui était le nombre de candidatures de l'année précédente. Donc c'est vrai que quand on va retenir entre 6 et 7 lauréats sur 75, ça fait peu. Sur 37, c'est déjà beaucoup plus facile.
On passe de 5 à 10%.
C'est ça.
Et une résidence à la Maison Julien Gracq, ça dure combien de temps?
Ça dure 2 mois. Alors on a ces résidences, on a plusieurs types hein, de résidences. Ces résidences classe, qui sont vraiment les résidents sélectionnés par le comité littéraire, artistique et scientifique, durent 2 mois. Ensuite, on a d'autres programmes de résidences avec des partenaires, parce qu'on a énormément de partenaires, je n'aurai pas le temps de tous les lister sur le territoire, entre Nantes et Angers. Et on a aussi, on développe aussi des résidences EAC, éducation artistique et culturelle, avec la DRAC, depuis tout à l'heure.
Donc ça, c'est des acronymes. Ça induit quoi, par exemple, une résidence EAC?
Ça induit juste un peu plus de médiation qu'une résidence de création classique. Résidence de création classique, on est sur 30% de temps de travail dédié à la médiation. Sur une résidence éducation artistique et culturelle, on va être sur du 50%.
Vous êtes, je ne trahirai rien en disant que vous êtes vous-même auteur. Ce concept de résidence, c'est important pour qui fait vœu d'écriture?
Oui, bien sûr, c'est capital. C'est le moyen pour un auteur de rencontrer son public. C'est le moyen pour un auteur d'être immergé dans un lieu déjà, de découvrir un nouveau lieu. Parfois, ça peut même être un lieu sur lequel il a un projet d'écriture. C'est pas toujours le cas et c'est pas forcément demandé. Et puis, c'est surtout le moyen de s'extraire de son quotidien, de toutes les tâches quotidiennes. Alors, on ne fait pas la popote aux résidents et on ne leur fait pas les courses, c'est à eux de le faire. Il y a des lieux où tout est pris en charge, ça existe, c'est assez rare, il y a quelques résidences comme ça, mais en fait ils vont pouvoir s'abstraire de leur quotidien, c'est-à-dire que il y a leur vie familiale en fait, hein, par exemple aussi, hein, c'est un moyen pour eux de couper, et très souvent ce sont des moments qui sont productifs.
J'étais venu donc visiter pendant les résidences de ces trois auteurs. Donc ce que j'ai compris, c'est que ils arrivent, ils ont un bureau. Il faut le dire, un bureau qui est plutôt magnifique.
Enfin, vu sur Loire.
Vu sur Loire. Enfin, c'est
tous
c'est...
les bureaux. Il y a trois bureaux. Les trois sont sur Loire.
Donc un magnifique bureau. Ils ont
un appartement.
Ils sont logés. Il ne reste plus qu'effectivement à faire la popote, ce qui crée des liens, de toute évidence. Enfin, moi j'ai constaté que ça fonctionnait entre les trois auteurs.
Tout à fait. Ils ont chacun une kitchenette privative dans leur appartement, et en plus ils ont une cuisine commune qu'ils peuvent partager le soir avec les autres résidents et le midi avec les membres de l'équipe.
Donc c'est
et des jardins. Un hectare de jardin en bord de Loire. Quand
même. Et un hectare de jardin, ça m'a donné l'occasion de faire des interviews sur un vieux banc de jardin face à la Loire. Des interviews comme ça, on en fait loin de là, pas tous les jours. C'était vraiment magnifique. Avant de passer à la deuxième partie et entrer dans le cœur du projet et du festival des préférences, je vous propose de faire une première pause musicale.
Thank you.
Entre les pages, ce n'est que sur Radio G que l'on peut aussi écouter sur son site www.radio-g.fr. Et nous venons d'écouter Ali Farka danse et se souvient de Titi Robin qui est venu le 3 mars dernier, dans ce studio puisqu'on était confinés, présenter son recueil de poésie « Je t'ai bu sans sucre, mon amertume ». Avant d'aborder le programme du festival Les Préférences plus en détail, je vous présente Simon Loretti, comédien, responsable de la compagnie Les Amis de l'ABC. Il est avec ses comédiens notre lecteur attitré. Bonjour Simon.
Bonjour Luc.
Pour les familiers de l'émission, ils vous connaissent bien maintenant. Ils ont entendu votre voix et celle des comédiens de votre troupe toute la saison passée. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ma proposition de venir lire dans Entre les pages, Simon ?
Aujourd'hui ou...
Non, depuis... de toute la vie du monde.
Parce que je m'occupe d'un atelier théâtre et c'était une occasion formidable de... L'année dernière, c'était une occasion formidable de braver le confinement puisqu'on a pu venir en radio lire des textes et se voir alors que c'était un petit peu interdit, mais... On avait plus ou moins le droit de le faire en radio et on en a bien profité.
Je pense. Oui, on a engagé plusieurs chantiers. Il y en a un qui n'est pas terminé, mais effectivement, oui, on en a bien profité.
Et quel exercice formidable aussi pour n'importe quel acteur, hein, des acteurs professionnels ou même des amateurs, de s'exercer au métier de la voix seule, de la radio.
Cette année là vous êtes parti sur quel projet avec la troupe des Amis de l'ABC?
Avec la troupe professionnelle, on est encore sur les souffrances du jeune Werther.
Ah, il souffre beaucoup là, il va falloir le soigner, hein.
Ouais, on continue à le faire souffrir et, on le fait souffrir, on essaie de le faire souffrir en plus un peu partout en France, là on essaie de le diffuser. Mm-hmm. Et bientôt on sera sur une création d'un jeune public à partir d'Alice au Pays des Merveilles.
Ok.
Avec il y aura beaucoup moins de paroles, ça sera avec une danseuse.
Ok, bah très très bien. On attend ça avec impatience.
En ce qui concerne les ateliers, ça n'a pas encore repris, donc c'est moi qui me chargerai tout seul de la lecture d'aujourd'hui.
D'accord. D'accord, oui, parce que on a fait de la polyphonie hein, la saison dernière, entre autres pour le Printemps des Poètes, où on a eu une belle chorale. Aujourd'hui, une lecture un peu particulière, puisqu'elle n'est pas d'une autrice de l'Anjou, mais je l'ai sélectionnée parce qu'elle sera une des invitées du festival Les Préférences. Il s'agit de Fabienne Raffoz, et le texte est extrait de...
Parce que l'oiseau.
Eh bien, écoute, à toi, Simon.
Et de même que l'évolution est sans jugement de valeur, ma petite évolution individuelle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne va ni dans le sens d'un progrès ou d'une régression, pas plus qu'elle n'est le fruit d'un dégoût pour Homo sapiens ou l'inclination d'un sujet vieillissant tromperon à tout faire mourir avec lui. Elle n'est plus qu'une tristesse infinie pour les millions d'individus qui aiment, pensent, pètent un câble et surtout sont les témoins terriens, indien, ou tout simplement épris de cette vie commencée il y a 3 milliards et demi d'années. Soit 1 milliard d'années après que la Terre s'est formée. À chaque ère, justement, un bouleversement. À chaque ère, une nouvelle extinction. On sait tout cela, mais il faut tout de même insister, à chaque extinction de masse, que la Terre ait été mise à feu, à glace, ou les deux, elle a toujours été mise à sang. Et les briques du vivant infailliblement se sont préservées sous la boule de glace, sous la terre enflammée. Un petit quelque chose dont on trouve trace dans les schistes de Burgess, dans les stromatolites d'Australie et sur une plage près du Colombier. Cette incroyable vie qui n'a jamais été réduite à zéro. Car comme le démontre Gould à l'envi, en filigrane de tout l'ensemble de ses 300 réflexions sur l'histoire naturelle, My good book, personnel, le hasard, toujours à un moment, met le curseur à zéro. C'est la moyenne, ou l'écart type qui compte en probabilité. La vie avec ses buissons, ses millions de variations ou de radiations, comme le langage binaire, est en base de « elle est » ou « elle n'est pas ». Et n'en déplaise aux amateurs de slogans racoleurs, ce n'est sûrement pas la planète qu'il faut sauver. Elle en a vu d'autres. Mais ce sont ses hôtes et ses témoins. Me revient une remarque de Joseph Louis de Lagrande, mathématicien italien, naturalisé français par Lavoisier, apprenant la nouvelle de l'exécution de son ami. Il dit « Il ne leur a fallu qu'un instant pour couper cette tête, mais il faudra un siècle à la France pour en produire une autre comme celle-ci. » Remarque tout aussi valable pour une autre icône de l'extinction, le dauphin de Chine, l'hypothèse vexillifère, et toute la cohorte qui s'éteint sous nos yeux. À la petite différence près que les siècles pourront toujours passer, nul buisson ne refera de branches aussi abouties que celles qui sont définitivement guillotinées aujourd'hui, par spécides involontaires ou délibérés, sous nos yeux. Et je rêve. Je rêve d'un tribunal international, mais n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il pourrait siéger, qui jugerait tous les spécides volontaires de la Terre. Une cour pénale internationale des non-humains. Consciente de l'écueil majeur qui consisterait à parler au nom d'eux, pour qui ne peut entendre notre langue. Trois stridulations ascendantes d'une éphipigère me rappellent à l'instant que le soleil est revenu. L'air a cette translucidité de fin de saison, d'autant plus perceptible qu'elle fait suite à plusieurs jours de pluie et de fraîcheur exceptionnelle. Ce chant d'été est bienvenu pour interrompre une de ces généralités que je n'avais pas prévues. Je ne le dis pas par coquetterie, car la digression restera là où elle s'est imposée, même si elle m'a un peu éloigné des plumes, des ailes et de l'envol.
Merci Simon. Emmanuel, ça nous plonge en plein cœur des préférences, ce texte.
Oui, en plein cœur, puisque Fabienne Raffoz sera une des invitées du festival, à l'occasion d'un coup de projecteur que nous avons décidé d'organiser autour des éditions Corti, hein, puisque ce texte est publié aux éditions Corti dans la collection, très belle collection Biophilia, dirigée par Fabienne Raffoz, qui est donc autrice, éditrice, et aussi la compagne de Bertrand Fiodo, qui est le directeur des éditions Corti. Donc ils seront tous les deux présents. Ça leur arrivait de venir aux rencontres GRAC, mais il n'y avait jamais eu de coup de projecteur sur leur travail. Et j'estimais quand même qu'après toutes ces années de fidélité, puisqu'il y a eu fidélité des deux côtés, fidélité de Julien Gracq aux éditions José Corti, tous les livres de Julien Gracq ont été publiés chez José Corti, et fidélité de l'éditeur à l'auteur, j'ai pensé que c'était important quand même de rendre hommage à cette fidélité. D'autant plus que voilà, nous sommes la thématique que j'ai choisie pour ce festival, avec ce sous-titre, hein, qui est Qui vive, et qui est emprunté à Julien Gracq à la fin du Rivage des Sirtes, à ce moment vraiment où Aldo comprend qu'en fait s'il a brusqué les choses et provoqué la guerre, parce qu'on comprend qu'il s'agit de la guerre avec le Farghestan, c'était pour savoir, pour essayer de répondre à cette question, qui vive. Eh bien, j'ai pendant le premier confinement en mars 2020, je me suis dit voilà, il y a peut-être une question à laquelle on va essayer de répondre, c'est cette question qui vive, c'est-à-dire qui sont les autres vivants, quelles sont les autres manières d'être vivant sur cette planète avec nous. Et je me suis demandé qui va pouvoir répondre à cette question, et tout de suite j'ai pensé à Fabienne Raffoz, entre autres. J'ai pensé également à Jean-Christophe Bailly, qui sera le parrain de cette deuxième édition. Jean-Christophe Bailly, qui est poète, traducteur, essayiste, dramaturge, qui a pendant des années enseigné philosophe à l'école du paysage de Blois, et qui a écrit énormément de livres, notamment sur la question du paysage et aussi sur la question animale. Hein. C'est notamment le versant animal qui est un livre important de Jean-Christophe Bailly. Et donc cette programmation, elle a été élaborée avec Jean-Christophe Bailly. On s'est retrouvé dans des cafés à Paris pour discuter de cette programmation. Et puis, on a un conseiller scientifique sur cette édition qui m'a beaucoup conseillé, c'est Pierre Skuntjes. Pierre Skuntjes est un universitaire belge, aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes de toutes les questions de tous les rapports entre la littérature et l'écologie. Il est l'auteur de plusieurs livres, notamment ce qui a lieu chez Wild Project, et puis un autre livre qui est Le mur des abeilles, qui a été publié aux éditions Corti également, et qui est un livre sur les rapports entre littérature et écologie. On aura énormément, alors on a 26 intervenants sur cette 26 intervenants, 30 événements tout au long de la Loire, hein, puisque la spécificité de ce festival unique en son genre, puisque c'est un festival littéraire et géographique, eh bien, c'est d'être itinérant. Ça va de Nantes à Saint-Florent, avec des étapes à Mauves, à Ancenis, on va sur l'île Clément, on va visiter les îles de la Loire, l'île Clémentine, les îles à côté de Mauves. Il y a toutes sortes d'événements, des tables rondes, des lectures musicales. Il y aura 3 hommages aussi à Julien Gracq, parce que c'est important sur ce festival de continuer à entretenir ce lien avec Julien Gracq. Donc 3 hommages à Julien Gracq à Ancenis, à Saint-Florent, et puis aussi à Notre-Dame du Marié, avec une lecture par Philippe Mathé des Nœuds de vie, qui sont les extraits parus de façon posthume là, au début de l'année 2021, qui d'ailleurs interroge, on voit que Julien Gracq interrogeait cette question environnementale qui est présente, hein, de toute manière dans un certain nombre de ses livres. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Isabelle Autissier, qui sera là parmi nous, Alexis Génie, prix Goncourt 2011, Jean Rouault, prix Goncourt 1990, qui revient un peu sur ses terres qu'il connaît bien, hein, puisque son épopée familiale et romanesque, j'ai envie de dire, commence pas très loin d'ici, hein, en Loire-Atlantique. Donc voilà, on a beaucoup d'événements. Tout le monde peut nous rejoindre pour les parcours à vélo, hein, qui sont indiqués dans le programme. Il suffit d'aller sur le site de la Maison Julien Gracq, donc www.maisonjuliengracq.fr. Tout le programme est détaillé pour les réservations. Et on a aussi des lectures au fil de l'eau sur des toux. Alors des ça, toux, c'est avec Jean Rouault, avec Jean-Christophe Bailly, avec Isabelle Autissier et aussi avec Catherine Poulain, qui nous fait le plaisir de sa présence. Il faut se dépêcher parce qu'il reste très peu de place pour ces, puisque c'est limité à 10 personnes.
Donc c'est déjà rien que sur cette intervention, on voit que il y a beaucoup de choses qui sont proposées. L'interrogation qui est posée par le festival, donc qui vive, qui est une question passionnante. Elle est tournée vers la question. Alors souvent, quand on entend qui vive ou la référence à qui vive, ça peut être la référence à Julien Gracq, mais ça peut être aussi la référence à l'armée, à la guerre. Enfin, il y a toute cette référence là. Et la question, l'interrogation, le festival, et vous le dites dans l'éditorial du programme, ça interroge la question de l'humain, ça interroge la question de l'animal. Et ça interroge aussi la question du végétal. C'est l'ensemble du vivant qui est interrogé dans le Festival des Préférences.
Tout à fait, de la plante humaine, comme disait Julien Gracq. Hein. Julien Gracq parlait de plante humaine. Il disait aussi que l'être humain était une forme d'animal à coquille. Donc il avait beaucoup comme ça de métaphores pour parler de l'être humain et qui puisait, qui empruntait en fait, hein, souvent au végétal ou à l'animal. Et ça a frappé beaucoup de commentateurs, hein, de l'œuvre de Julien Gracq. Et c'est vrai que on sous-estime à quel point Julien Gracq a interrogé ces questions des frontières en fait entre les différentes formes de vivant qui sont pourtant très présentes dans son œuvre, où en fait les éléments naturels, hein, c'est un géographe Julien Gracq, donc les éléments naturels sont très présents dans son œuvre. Et d'ailleurs je cite un texte où Jean-Christophe Bailly le compare à un oiseau de proie. Il disait que Julien Gracq était de la race des oiseaux de proie. C'était d'ailleurs dans un livre collectif qui était intitulé Qui vive, et qui était constitué, publié chez Cortier, qui était constitué de nombreux hommages à l'œuvre de Julien Gracq. Donc je crois qu'on reste vraiment dans la thématique, c'est l'idée un peu du festival, hein, c'est de rester dans des thèmes qui étaient chers à Julien Gracq, mais au lieu d'être dans une analyse approfondie de l'œuvre de Julien Gracq de type universitaire, on est plutôt sur l'idée, c'est plutôt d'inviter des auteurs dont on suppose qu'en fait ils ont lu Julien Gracq, ils ont cette sensibilité gracquienne, et ils ne viennent pas pour, s'ils ont envie de parler de Julien Gracq, ils peuvent très bien le faire, il y a des hommages qui leur permettent de le faire, mais ils viennent aussi pour parler de leur œuvre à eux et de cette littérature contemporaine, de cette littérature vivante que nous soutenons depuis le début de la création de la maison Julien Gracq, qui est la mission en fait que nous a confiée Julien Gracq.
Alors c'est intéressant cette intervention, parce que effectivement il me semble que, alors je vais, vous me l'avez déjà dit mais je vais mal dire son nom et c'est pas grave, mais je vais tenter le coup quand même.
Pierre Skoenkies,
c'est le travail, il me semble moi que l'entrée par laquelle entre Pierre Skoenkies, c'est-à-dire analyser la littérature et l'émergence de ces questions-là dans la littérature, moi je trouve que cette démarche est intéressante parce que elle montre que cette question, cette interrogation et cette connexion avec les problématiques du monde aujourd'hui, on peut les lire au travers de la littérature, on peut les dépister, aller les rechercher, et lui fait ce travail-là de recherche, enfin d'étude et d'analyse.
Tout à fait. Il montre tout d'abord que ce sont des préoccupations qui ne sont pas si récentes que ça. C'est-à-dire que si on remonte dans le temps, on va trouver des auteurs comme Julien Gracq, mais aussi comme Romain Gary, si on pense aux Racines du ciel, comme Pierre Gascard, hein, oui, qui est un peu oublié aujourd'hui, malheureusement, qui a été pris Goncourt, qui a obtenu le prix Goncourt comme Julien Gracq, qui ne l'a pas refusé, mais qui est un peu oublié aujourd'hui, alors que c'est un auteur qui a énormément écrit, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Le règne végétal, qui a écrit tout un livre consacré au lichen. Moi j'adore ça parce que je suis passionné depuis tout petit par les lichens.
Oui. Et il en reste des traces exposées.
C'est vrai, oui, tout à fait. et donc en fait, Pierre Skoenkies nous montre que quand même il y avait quelque chose, il y avait des petites, j'ai envie de dire comme des lichens d'une littérature d'une littérature verte, mais qu'en réalité ça n'a jamais été très commenté, jamais très analysé, et puis c'était pas central, parce qu'en fait les questions qui passionnaient les écrivains, c'était l'histoire, la politique, ces choses-là. La nature, c'était considéré comme quelque chose d'un petit peu secondaire. Alors qu'aujourd'hui, dans la littérature française, c'est devenu central. Alors peut-être avec un petit temps de retard, si on pense à la littérature américaine et à tout le mouvement du nature writing, qui était un mouvement que Julien Gracq connaissait bien, qu'il a suivi. Mais voilà, ça émerge aujourd'hui dans la littérature française, dans la littérature francophone, et on a pensé que c'était important pour nous de suivre ce mouvement, et puis aussi l'idée n'est pas de convaincre, mais c'est vrai que toute la manière dont le festival s'inscrit dans le paysage, c'est aussi une manière de dire voilà, il y a peut-être d'autres manières aujourd'hui de considérer ce monde qui nous entoure. Pierre Gascard disait, il n'y a que le monde qui parle.
Oui. Voilà. Alors, moi, par rapport à Pierre Skontiès, un auteur, chercheur, qui parle avec enthousiasme d'Edward Abbey, pour moi, a tous les honneurs, doit avoir tous les honneurs. Enfin, Edward Abbey qui a écrit, qui est plutôt un militant écologiste radical, qui a écrit des livres extraordinaires comme Le gang de la clé à molette, et puis Seuls sont les indomptés, deux titres que je cite comme ça de mémoire, et Pierre Skontiès en. Il fait référence à plusieurs reprises dans ses livres. Moi, je trouve que son travail est intéressant parce que c'est presque un travail pédagogique. C'est-à-dire qu'il nous permet, il nous montre qu'il y a une matière qui pénètre dans la littérature de plus en plus. Il la décortique, il la déconstruit presque pour attirer notre attention et porter notre regard dessus. Et j'ai trouvé ça, moi, j'ai trouvé ses livres vraiment, enfin, vraiment passionnants. Vous l'avez dit, il y a Jean-Christophe Bailly. Alors c'est presque la statue du commandeur là dans le domaine. Moi, ce qui m'a fait comprendre le thème du festival Qui Vive, peut-être que c'est effectivement dans le versant animal, le démarrage du versant animal, quand Jean-Christophe Bailly cite, évoque un flash qu'il a eu et qui lui a fait presque comprendre ce qu'était l'animal. Il est de nuit, il roule en voiture, il est de nuit, et il y a un cerf qui surgit dans les phares de sa voiture, et sur ce seul flash-là, il commence à écrire et à dire « j'ai compris quelque chose du versant animal, justement de l'autre côté », et j'ai trouvé ça, presque magique, quoi. L'écriture d'abord est belle, c'est une très très belle écriture, une magnifique écriture, mais cet élément-là cité tel qu'il le fait, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a fait comprendre, il y a des choses que j'ai comprises par cette entrée-là dans ce livre-là. Et c'est lui donc qui est le parrain. C'est venu spontanément le fait que ce soit Jean-Christophe Bailly qui vienne comme ça parrainer cette manifestation.
Ah, c'était pas la première fois que je lui proposais, parce que je lui avais déjà proposé une première fois, il avait refusé. J'avais proposé la première fois d'être invité d'honneur, il m'avait dit ah, invité d'honneur j'aime pas, parce que Jean-Christophe Bailly n'aime pas les honneurs. Et je lui ai dit parrain, il m'a dit ah, parrain, ça je préfère. C'est comme dans le film.
Comme dans le film.
Donc je lui ai dit bah alors. Voilà, je lui ai dit tu seras le parrain dans ce cas. Et non, moi je suis Jean-Christophe Bailly depuis longtemps. Je l'ai rencontré suite à la lecture du Dépaysement. Je crois pas que c'était le premier livre que je lisais de Jean-Christophe Bailly, mais c'est le premier qui m'a vraiment estomaqué, et donc je me suis senti obligé de lui écrire. Et puis depuis on a échangé plusieurs fois. Jean-Christophe Bailly a eu la grande gentillesse de m'écrire, et il m'écrivait à chaque fois que je lui envoyais un livre, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains à qui on envoie des livres, et de façon assez disserte. Et puis c'est vrai qu'il a bien connu Julien Gracq, il a échangé avec Julien Gracq, il a rencontré Julien Gracq plusieurs fois. On a à la maison Julien Gracq quasiment tous les livres de Jean-Christophe Bailly qui dédicacés à Julien Gracq. Je sais qu'il y a un moment où il a pris un peu ses distances avec Julien Gracq, mais je pensais que c'était important de le faire revenir sur ces lieux qu'il connaît bien. Et surtout, Jean-Christophe Bailly, il suffit de l'entendre parler de la Loire. Il a une passion pour la Loire, mais qui est presque plus grande que la passion de Julien Gracq pour la Loire, parce qu'il a vécu d'une certaine manière, il a travaillé à Blois, il a dans le Dépaysement, il y a des passages où il décrit justement notamment l'arrivée sur Blois, quand on passe par Beaugency, il y a ce très beau passage sur Beaugency où il décrit les toits de Beaugency qui dégringolent vers la Loire, où il décrit ce pont magnifique de Beaugency. Et c'est vrai que je sais à quel point il est attaché à ce fleuve, à quel point ce fleuve l'émeut, Et donc à chaque fois qu'on s'appelle, qu'on parle, il y a un moment où on va parler de la Loire. Je sais qu'il sera, enfin j'espère qu'il sera content et il sera là pour, il pédalera avec nous, Jean-Christophe, et avec sa compagne Gilberte Tsai qui sera invitée également. Et c'est vrai que et il aura et il y aura une rencontre entre Jean-Christophe Bay, j'ai oublié aussi d'en parler, et Gilles Clément. Ce sera en SNI. Ça sera en SNI, donc ce sera la rencontre au sommet à la chapelle. À la chapelle des Ursulines, et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à venir à Ancenis pour écouter Jean-Christophe Bailly et Gilles Clément échanger, parce que je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire.
Oui.
Et ça se passera alors même qu'il y aura une exposition sur le thème qui s'appelle, l'exposition s'intitule Qui vive, parce que on a un partenariat avec le MA, Montrelais Ancenis Territoire, qui expose des œuvres d'art. Et je suis sûr que ces œuvres d'art qui sont des œuvres d'art qui interrogent notre inscription dans l'espace. Je suis sûr qu'elles vont parler à Gilles Clément et à Jean-Christophe.
Mmh. Alors, on évoque un peu la multiplicité de l'offre dans le festival. Alors, certains pourraient se dire, oh là là, c'est encore un truc. C'est peut-être un truc d'intellectuel, quoi. Enfin, bon. Moi, je regardais un peu.
Bien sûr, c'est un truc d'intellectuel. qu'est-ce qu'on a contre les intellectuels?
Et voilà, comment on se fait piéger. Donc, et puis en plus, je vais me faire doublement piéger parce que ce que je vais dire après, et c'est pire que tout, mais c'est pas grave. Donc, malgré tout, on trouve des gens, enfin, qu'on s'attend pas à voir à cet endroit-là. Enfin, moi, il y a des gens que je m'attendais pas à voir à cet endroit-là. Je pense à Pascal Dessin. Mmh. Je me dis, bon sang, comment on arrive à solliciter un auteur comme Pascal Dessin, qu'on connaît comme auteur de polar, quoi, en fait, hein, c'est sa marque de fabrique. Qu'est-ce qu'il vient faire là?
Ah, bah, parce que les polars de Pascal Dessin sont des polars tout à fait particuliers, ce sont des polars écolos, en fait. Pascal Dessin, il a inventé un genre, hein, qui est la littérature noire-verte, j'ai envie de dire. Ce sont des romans noirs, mais qui sont toujours qui posent toujours des questions écologiques importantes. Mm-hmm. Et Pascal Dessin, il connaît bien la Maison Julien Gracq. Ça a été un des tout premiers résidents de la Maison Julien Gracq, en partenariat avec le festival Mauvais Noir, et on fait venir Pascal Dessin dans le cadre du festival Mauvais Noir. Grâce à Benoît Sagot-Duvauroux et à Caroline de Benedetti qui seront là, puisqu'il y a une étape du festival à Mauve sur Loire qui est le lieu du festival Mauve en Noir.
Il y a plein de choses à dire sur ce festival. Enfin, moi, j'aurais voulu. On a parlé de Fabienne Raffo. Je voudrais pas faire une fixation sur cette personne. Je peux simplement dire que j'ai lu un de ses livres qui s'appelle Jeux d'oiseaux dans un ciel vide. C'est la première fois que je lis un livre qui n'est constitué qu'une liste de noms d'oiseaux. C'est sidérant. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans ce livre. On peut le comprendre parce que j'ai mis jusqu'à la page 54. Je sais que c'est jusqu'à la page 54. Et puis après, je me suis fait prendre par cette poésie, en fait, une poésie très étrange. Quelqu'un qui est capable de faire de la poésie simplement en énonçant des listes d'oiseaux. Je pense que c'est une performance que j'avais pas. Enfin, et c'est pas fait au titre de la performance, bien entendu. Je pense pas que c'était son idée. Mais ce qu'elle réussit à faire dans ce livre est complètement surprenant. Enfin, elle va faire, je crois, une promenade ornithologique, c'est ça?
Tout à fait, une balade ornithologique sur l'île Batailleuse, donc de l'autre côté de la Loire. Et ça sera le dimanche 26 septembre à 11h.
Alors elle se définit comme ornithophile. Alors elle n'est pas ornithologue, mais elle est ornithophile, passionnée d'oiseaux, passionnée amateur, mais on est quand même à un niveau de connaissance qui est quand même impressionnant. On a cité plein de noms, on pourrait en citer d'autres, on pourrait dire qu'il y a Florent Marché qui est invité.
Donc Gwenaëlle Abolivier qui est notre résidente du festival, dans le cadre d'une résidence croisée qu'on a créée avec la ville de Nantes. Parce qu'on a cette résidence croisée tout au long du festival, qui est une résidence ville-campagne, en création à la Maison Julien Gracq et en médiation à la ville de Nantes et sur le festival.
Toutes les informations, on peut les retrouver sur le site de la maison Julien Gracq. Hein. C'est facile, il suffit de taper dans un moteur de recherche maison Julien Gracq et on tombe sur le programme. Il est riche et ça a lieu du 22 septembre au 26 septembre. Je pense que c'est pour tout le monde. C'est un événement, un moment incontournable. Enfin, à mes yeux, c'est un moment incontournable. Et Emmanuel, je sais que nous nous y retrouverons. Merci d'être venu à Entre les Pages. Luc. Et puis, je vais vous souhaiter un bon retour à Saint-Florent-le-Vieil. On va donc partir pour une deuxième pause musicale. D'écouter Aurore de Jean-Louis Bergère. C'est une manière d'hommage à ce grand monsieur décédé au mois d'avril dernier, subitement, à 60 ans. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. Lors du premier confinement, j'avais proposé à plusieurs chanteurs de l'Anjou d'interpréter un titre a cappella. Jean-Louis avait accepté très généreusement. Ça avait été une très très belle rencontre. Changement de décor un peu brutal pour ouvrir des portes et des fenêtres dans cette émission qui parle du monde des livres en Anjou. J'ai sollicité Julien Védrenne, journaliste, chroniqueur dans le célèbre fanzine La Tête en Noir, animateur de l'émission Calibre 58 sur cette même antenne, mais néanmoins demeurant à un grand Le Fresne sur Loire, ce qui prouve bien qu'en terre d'Anjou, même en ses confins, on y écrit aussi, on y écrit bien et on a le regard tourné vers des ailleurs. Après une année à nous faire entendre...
Entre nous, à quoi penses-tu en général ?
À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.
Julien Julien a décidé de nous offrir cette année un tour d'immonde. Ce tour, il l'a imaginé sous forme d'abécédaire. Il y avait l'abécédaire de Hervé Bazin, celui d'Albert Jacquard, celui bien entendu de l'inévitable Gilles Deleuze, même pas référencé sur le site Babelio, mais où va-t-on ? Et à la fin de la saison, il y aura donc celui de Julien Védrenne avec ce tour d'immonde. Le tour d'immonde, c'est sa sélection totalement subjective de romans noirs, un par pays. Et comme tout alphabet, il commence par la lettre A, et à la lettre A, je demande l'Argentine.
Ah, 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 tour d'immonde.
What is your nationality?
I'm a drunkard.
That makes Rick a citizen of the world.
Pour cette première étape de mon tour d'immonde, j'aurais pu choisir l'Allemagne de Simone Buchholz ou l'Afrique du Sud de Deon Meyer. J'ai pourtant préféré vous embarquer pour l'Argentine. Par son histoire, l'Argentine est une terre féconde pour les littératures policières. Il y a bien entendu Raoul Argemi, dont le roman Patagonia Chuchu est un véritable road movie déjanté à bord d'un train en compagnie de ses occupants picaresques. Mais il me fallait de l'immonde. Alors j'ai choisi Ernesto Malio. Comme Raoul Argemi, Ernesto Malio est édité chez Rivage dans la mythique collection de poche Rivage Noir. Alors, dire que c'est un habitué, ce serait présomptueux. Trois romans seulement figurent au catalogue, et tous trois relatent les aventures de Pero Lascano, un inspecteur de la fédérale qui, comme tout bon flic de roman noir, hésite entre enquête et quête. S'il apparaît dans l'aiguille dans la botte de foin, qu'il arpente ensuite un voyou argentin, je me suis intéressé à sa prestation dans « Les hommes t'ont fait du mal ». Les romans sont tous les trois traduits par Olivier Hamilton. Le romancier et son traducteur ont plus que des points en commun. Ils sont très proches idéologiquement et politiquement parlant. Et l'on sent bien que Pero Lascano est un ami très cher de ces deux hommes. « Les hommes t'ont fait du mal » est en quelque sorte un roman crépusculaire. L'inspecteur intègre est poussé à la retraite de manière un peu brutale. Alors qu'il traîne son spleen et délaisse sa maîtresse, il est contacté par une cousine inconnue qui lui propose sa première enquête en qualité de détective. Sa fille et sa petite-fille ont disparu. Si le corps de la fille a été retrouvé, celui de l'enfant n'a toujours pas ressurgi. Lascano accepte d'enquêter et va plonger dans les affres du trafic d'adolescentes, de la corruption politique et du narcotrafic. Bon, rien de neuf sous le soleil, me direz-vous. Sauf qu'Ernesto Malio n'est pas un écrivain bourgeois. La pauvreté, il l'a connue enfant. Il a été obligé d'arrêter l'école très tôt. Et son écriture est autodidacte. C'est d'ailleurs un des points forts de ses romans. Les dialogues sont en italique à la suite les uns des autres. Mais il n'y en a que très peu. Au début, cela dit, ça surprend car on se demande qui parle et à quel moment. Et puis, avec un peu d'attention et de logique, tout coule de source. Il reste des phrases qui font mouche, qui sont dures, à l'instar de la vie de ses personnages. Chez Ernesto Malio, le monde n'est pas crade parce qu'il le souhaite crade. Non, il est tel qu'il le dépeint. L'enquêteur, lui, est désabusé, mais il se doit d'agir. Écoutez donc un extrait qui en dit long sur sa personnalité. Il voudrait pleurer, mais sa tristesse se transforme en rage, en furie, et la colère exige l'action. Il lui reste encore quelque chose à faire. Il enclenche la première et s'immisce dans la course que se livrent les véhicules sur la Costanera. Mais Lascano ne court pas contre eux. Il court contre l'infamie du monde, des hommes, et il a bien l'intention de les battre, même s'il ne s'agit là que d'une infime bataille. Ernesto Malio, les hommes t'ont fait du mal. C'est chez Rivage. Mais il vaut mieux commencer par l'aiguille dans une botte de foin. La prochaine fois, on reste sur le continent sud-américain. B comme Brésil. Une autre idée de la violence.
Voilà Pierre Benoît qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre Benoît.
Bonsoir, bonjour.
Oui, bonsoir à l'heure qu'il est. Cela fait un an que tu as rejoint l'équipe des professionnels de la radio.
Oui, tout à fait.
C'était comment cette première année ?
Eh ben, plutôt agréable et sympathique, mais c'est surtout cette saison qui s'annonce qui me stimule au plus haut point.
Ouais. Ouais.
Parce que je vais reprendre l'animation des quotidiennes, bah, que j'ai commencé d'ailleurs cette semaine.
Ouais. Lourd challenge à relever, hein, la succession d'Anne-Lie, c'est ça?
Oui, oui, bah, je commence déjà à être fatigué après 3 jours, mais je pense que c'est l'excitation, la stimulation, encore une fois, et puis bah, un petit peu de stress et d'appréhension, hein, ça c'est normal. Mais ouais, je suis impatient de voir ce que ça donne au bout déjà de la fin de la semaine, mm-hmm. et puis à la fin de l'année.
Ouais. C'était une. Anne-Lie animait L'Oreille Curieuse.
Oui.
Et toi, t'as, bien sûr, tous les petits nouveaux, ils font ça, ils changent tout, hein, ils bouleversent tout. Et toi, ton magazine s'appelle comment ?
Alors, il s'appelle Topette, pour plusieurs raisons que je peux expliquer peut-être.
Vas-y, explique. J'aime bien parce que je l'ai déjà entendu 3 fois, mais c'est pas grave, vas-y.
Allez, une 4e fois, ça fera pas de mal. Topette, expression angevine. Or, Radio G, c'est une radio locale, donc avant tout à destination des angevines et des angevins. Donc, ça peut leur parler. C'est aussi en fin de journée, donc c'est un moyen de se dire bah, topette, au revoir, bonne fin de journée à ceux qui rentrent du travail. Et c'est également un petit clin d'œil à mon ancienne émission qui s'appelait Clic Clac Topette, tout simplement.
Alors, émission magazine, il y a quoi au programme ce soir ?
Eh bien, ce soir au programme, il y a du beau monde, puisqu'il y a un spectacle qui s'appelle Du cœur des femmes, qui sera représenté dans le cadre du Grand Ouest Festival du Quai, qui fait sa première édition cette année. Alors c'est un spectacle, comment on pourrait le qualifier, de participatif. Ça donne la parole aux femmes, alors à des femmes qui sont pas forcément comédiennes ou issues du milieu du spectacle, et qui se retrouvent embarquées dans cette aventure grâce à Vanny Fio, qui sera là dans quelques instants pour nous en parler.
Super. Bah écoute Pierre-Benoît, moi je te remercie d'être venu entrer dans l'émission Entre les Pages depuis le temps qu'on se croise.
Oui, je suis entré dans les pages, ça y est.
T'es entré dans les pages et je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Je te laisse finir de préparer, parce que j'imagine qu'il y a encore un petit peu de stress, donc je te laisse finir de préparer ton émission.
Merci beaucoup.
Et puis, bah, écoute, à bientôt.
À bientôt, topette.
Et ben voilà, cette première émission de la saison est arrivée à son terme. Quelques événements à vous annoncer. Le mardi 21 septembre à 19h à la médiathèque Toussaint à Angers, Mélisse de Kerangal, qui était venue au premier festival des préférences, qui avait fait une lecture sublime sous les arbres, c'était vraiment tellement beau, et l'invité des Bouillons, la manifestation s'appelle Les Bouillons, en partenariat avec la librairie Contact. Le vendredi 24 septembre, la très excellente librairie Et les mots sont vraiment faibles, Le mot de la fin à Montreuil-Juigney, rencontre avec Gaëlle Chesnay autour de son livre Le contrôle de la vérité, ce pâle objet du désir, publié chez VA Éditions. Faut-il maintenant le rappeler, après cette heure d'émission, le festival Les Préférences, organisé par la maison Julien Gracq du 22 au 26 septembre prochain. Toutes les informations sont sur le site de la maison Julien Gracq. Parfaitement bien fait et beau, ce qui ne gâche rien. Au cours de l'émission, vous avez entendu Titi Robin, qui a interprété Ali Farka Danse et se souvient, extrait de l'album Rebelle d'Iwana. J'ai tenu à rendre hommage à Jean-Louis Bergère, disparu brutalement le 21 avril, en diffusant Aurore, extrait de son si beau dernier album Ceux qui demeurent. C'est bien Jean-Louis Bergère qui devrait demeurer dans nos esprits. Sa poésie élégante, sa voix profonde avaient trouvé leur plénitude dans cet album. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 29 septembre à 17h. Dans quelques instants, ce sera le journal de RFI. Puis vous retrouverez, comme vient de le dire Pierre Benoît, le magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
Yeah, okay, let's go.
Générique.